100% d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
C'est un procès invraisemblable, voire grotesque selon les mots d'Amnesty International. Le procès de 24 travailleurs humanitaires s'ouvre aujourd'hui sur l'île grecque de Lesbos. Ces bénévoles de l'ONG RC sont accusés entre autres de trafic d'êtres humains et d'espionnage. Des bénévoles qui pendant 2 ans ont surtout œuvré pour sauver des migrants de la noyade au large des côtes grecques. Sur le papier, ces travailleurs humanitaires risquent jusqu'à 25 ans de prison. Parmi eux, Sarah Mardini, une réfugiée syrienne à qui Netflix vient de consacrer un film. Les nageuses, c'est son titre. Il est sorti en fin d'année. Joël Brunner, vous êtes notre correspondant en Grèce et vous avez vu ce film. Que raconte-t-il ?
Les nageuses, c'est l'histoire de Yousra et de Sarah, deux jeunes sœurs syriennes, nageuses toutes les deux, qui fuient en 2015 la violence de leur pays, alors ravagé par la guerre civile. Le spectateur est plongé au cœur de la vague migratoire qui a vu cette année-là près d'1 million de demandeurs d'asile arriver en Europe. Le film revient en particulier sur la traversée de la mer des deux sœurs entre la Turquie et l'île grecque de Lesbos. En raison d'une panne de moteur de leur bateau gonflable surchargé, les deux nageuses se jettent à l'eau et permettent à la vingtaine de passagers d'arriver à bon port en Grèce. Par la suite, les deux sœurs parviennent au prix d'un long périple à se rendre jusqu'en Allemagne. L'une d'elles, Yousra, poursuit alors la natation à haut niveau.
Comment a été accueilli ce film Les Nageuses, Joël ?
En plus de sa diffusion sur la plateforme Netflix, Les Nageuses a également été projeté dans certains festivals, comme à Toronto en septembre dernier. À l'heure du générique, le public canadien a alors réservé à ce film 4 minutes de standing ovation. Ce que dit cette réaction, c'est sans doute que Les Nageuses est parvenue à incarner ce qu'on a appelé la crise migratoire, permettant aux spectateurs, notamment occidentaux, de se mettre à la place de ces migrants au destin chamboulé par la guerre. Et cela, à travers le portrait de ces deux jeunes Syriennes, au départ insouciantes, elles qu'on voit par exemple en train de danser sur un toit lorsque des bombes au loin se mettent à pleuvoir.
Le film se clôt sur le constat de deux destins radicalement différents pour chacune des deux sœurs.
Tout à fait. Les Nageuses nous fait suivre la carrière sportive de Yousra jusqu'à sa participation aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Le film s'achève alors en précisant qu'elle participe à nouveau aux JO suivants à Tokyo, toujours pour une équipe d'athlètes réfugiés. Le contraste est donc saisissant avec sa sœur Sarah, qui retourne en 2016 sur l'île grecque de Lesbos en tant que secouriste bénévole en mer pour RC, une petite ONG. Problème, l'activisme des ONG déplaît à l'État grec et les membres d'RC se retrouvent accusés, entre autres, d'être l'équivalent de passeurs. Cela a notamment valu à Sarah plus de 3 mois de détention préventive en 2018. Depuis, 24 humanitaires, dont Sarah Mardini, sont poursuivis par Athènes pour des motifs tels que trafic d'êtres humains ou espionnage. Des poursuites rappellent le film que Human Rights Watch juge motivé politiquement, tandis qu'Amnesty International les qualifie d'injustes et sans fondement.
Merci Joël Brunner, à bientôt. C'est un peu l'histoire de David contre Goliath, celle d'une lutte syndicale dans laquelle les salariés sont sortis vainqueurs à la fin. Ça se passe à Marseille. En juin 2018, les employés d'un McDonald's des quartiers nord se rebellent face à la décision du propriétaire de la franchise de fermer et céder l'établissement jugé trop peu rentable. Au printemps 2020, en plein Covid et alors que tout le pays est confiné, les anciens employés décident de réquisitionner le restaurant pour en faire une plateforme de distribution de nourriture aux habitants du quartier mis en difficulté par la situation sanitaire. Au final, la mairie a racheté les murs pour en faire un restaurant, ou plus précisément un fast-food solidaire où les anciens et les nouveaux salariés travaillent pour nourrir les habitants du quartier et maintenir ce lieu de convivialité. Le reportage de Yoram Meloul.
Une cuillère à la main, Amina s'affaire dans les cuisines du restaurant. Elle prépare les ovnis du nom des burgers conçus spécialement pour l'après-m par le chef étoilé marseillais Gérald Passeda.
On prépare la sauce cocktail pour l'ovni bœuf et on prépare la sauce tzatziki. On a la fiche technique pour l'ovni poisson.
Elle a passé 2 ans à distribuer bénévolement des colis alimentaires à l'après-m avant d'être embauchée avec une trentaine de personnes comme salarié en insertion quand le restaurant a rouvert.
Comme je n'ai pas trouvé un travail, j'ai dit « allez, je change un peu avec l'équipe, on était bien, on s'entendait très très bien ». Je me suis passée une situation très difficile, ils m'ont proposé de travailler. J'ai dit « oui, oui, oui », sans réfléchir, avec un grand plaisir. Je suis en plus de quartier, donc je connais tout le monde. Même les clients qui viennent manger de loin, je les salue de loin, ils me saluent. Et même mes voisines, je rentre le soir, ils me disent « ah Amina, demain je viens manger chez toi, c'est toi qui fais la préparation ». J'ai dit « ok, il n'y a pas de souci ». Alors même les gens du quartier sont très 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 contents.
Amina est supervisée par Yacine, un ancien manager du McDonald's. En 2019, il a lutté avec d'autres salariés pour empêcher la fermeture de l'établissement. Désormais, dans le fast-food solidaire tout juste ouvert, il a repris son poste et il n'est pas trop dépaysé puisqu'il utilise les mêmes équipements qu'à l'époque du restaurant de la grande chaîne américaine.
Je suis resté là jusqu'au dernier jour du McDo, jusqu'à qu'il ferme. Donc le voir ouvrir comme ça, ça fait plaisir. Petit à petit, on commence à retrouver un peu les sensations, c'est bien. L'ambiance, c'est pas la même. On sent, là, y a pas la même pression. Voilà, c'était strict. On a presque travaillé comme des robots, on va dire.
Pour les habitants, cette réouverture est tout un symbole. Car le McDonald's n'était pas juste un endroit où ils venaient manger. Kamel Guémari, ancien salarié de la firme et figure de la lutte pour la sauvegarde du restaurant.
De l'ouverture de ce restaurant en 1992, on l'a surnommé le centre-ville des quartiers nord. Quand on a besoin d'avoir un lieu de repère, on se donne rendez-vous ici à l'après-m ou à l'époque à McDo. Quand on a envie de s'évader, quand on a un petit souci ou une angoisse chez soi, quand on descend dans un quartier, souvent les enfants ils sont pas en sécurité, ils viennent ici en famille, ils peuvent s'épanouir, oublier un peu leurs soucis et rencontrer d'autres personnes. Et voilà, c'est un lieu vraiment de partage et ce n'est pas qu'un lieu de charité ou de restauration traditionnelle ou fast-food classique. Pour nous, c'est un lieu de vie.
Il y a d'ailleurs d'anciens habitués venus retrouver le plaisir de déjeuner dans le fast-food. Hugo est avec sa grand-mère, Monique.
Comme j'étais avec les enfants, on va aller au cirque après. Et du coup, on a dit avant d'aller au cirque, on va à l'après-m.
On reprend les habitudes
On reprend les habitudes, voilà, c'est ça. Ça nous a manqué quand même. Parce que ça, c'était vivant, ça menait du monde aussi. Ça faisait une animation. On avait quelque chose dans le quartier.
T'as appris quoi, là, à manger, par exemple?
Un menu Minot.
Le menu Minot, il y a quoi dans le menu Minot?
Des frites, une boisson, des compotes et des hamburgers ou des nuggets.
Le restaurant doit financer les autres activités associatives de l'après-m, comme les maraudes ou encore la création d'une conserverie. Une motivation supplémentaire pour Sophia Guémari, salariée en insertion.
On travaille pour les personnes qui sont en détresse, qui n'ont pas à manger, ni à boire, ni... qui sont dans le besoin en fait, et c'est surtout par rapport à ça qu'on est là. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qu'on voit qui pensent pour les sans-abri ou pour ceux qui n'ont pas mangé à midi, ici on pense. Et c'est ça qui fait que ça me donne encore plus envie de travailler ici.
Chaque lundi, des centaines de personnes se présentent à l'extérieur du restaurant. Alignées le long des murs violets de l'après-m, elles viennent récupérer des colis alimentaires distribués par des bénévoles.
Dans le quartier, il n'y a que des pauvres, voilà. Il y a des gens qui n'ont rien.
À quel rythme vous en distribuez, là? Vous n'arrêtez pas? Combien il y en a à peu près?
550.
Aujourd'hui, vous allez en distribuer 550 à peu près?
Peut-être un petit peu plus.
Et c'est comme ça tous les lundis?
Tous les lundis, des fois plus. Des fois un petit peu moins, bien sûr. Mais souvent plus.
Et selon les bénévoles, pendant les 5 semaines du premier confinement, plus de 100 000 personnes ont pu bénéficier de l'aide alimentaire mise en place par l'après-m.
Toutes ces femmes dans la rue, toutes ces femmes...
Comment visiter la capitale allemande avec un filtre un peu particulier? À Berlin, depuis un mois, une application appelée « Nous avons toujours été partout » permet de découvrir un quartier central de la capitale, Schöneberg, sous l'angle de la prostitution. Cet arrondissement est en effet connu pour ses travailleurs et travailleuses du sexe, et cela depuis la fin du 19e siècle. Le Musée Gay et un syndicat des travailleurs du sexe ont créé cette application à télécharger gratuitement sur son smartphone. Le but, lever la stigmatisation sur le plus vieux métier du monde dans un quartier en pleine transformation, alerter aussi sur des questions de santé publique et proposer une approche historique décalée. Le reportage de Delphine Arbolier.
La visite commence à la station de métro Bülowstrasse. C'est avec la construction de cette gare à la fin du 19e siècle et l'arrivée de milliers d'ouvriers immigrés que la prostitution a pris son essor dans ce quartier de Schöneberg, arrondissement central du sud de la Porte de Brandebourg, qui concentre aujourd'hui encore bon nombre de lieux de prostitution de la capitale. À l'époque, la gare de Bülowstrasse est l'une des premières du tout nouveau réseau de métro de la capitale. On y monte pour rejoindre la Potsdamer Platz, le cœur culturel de la ville. Aujourd'hui, Berlin compte officiellement près de 8000 travailleurs et travailleuses du sexe, dont la plupart sont salariés dans des maisons closes, mais c'est sans compter sur ceux et celles qui travaillent de manière illégale. À l'origine de cet audioguide, il y a un syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe, dont Emma Pankhurst, un pseudonyme, fait partie. Cette Américaine aux cheveux auburn travaille elle-même dans une maison close. Elle a eu l'idée de cet audioguide pendant la crise du coronavirus.
L'idée de ce projet date d'une discussion avec une autre activiste du syndicat sur les raisons de la hausse des violences contre des travailleurs du sexe depuis le Covid, particulièrement dans ce quartier où les gens travaillent dans la rue. Il y a toujours eu de la violence contre eux dans ce quartier, mais cela a empiré récemment. Nous avons donc parlé du fait que la prostitution est très profondément ancrée dans l'histoire locale. Nous nous sommes demandé si les gens du quartier savaient depuis combien de temps nous travaillons dans ces rues, c'est-à-dire depuis plus d'un siècle, et s'ils le savaient, nous traiteraient-ils différemment ?
Pour ce projet, Emma et trois autres de ses collègues ont obtenu des financements de la part de la ville de Berlin. Durant une année, ils ont mené des recherches historiques sur un sujet qu'Emma juge méconnu.
Ce que l'on entend sur la prostitution dans l'histoire est très limité et très biaisé et souvent uniquement débattu sous l'angle de la pauvreté. On ne parle pas du fait que les travailleurs du sexe sont des gens, c'est cela que l'on veut changer.
Concrètement, avec cet audioguide gratuit, les visiteurs découvrent des lieux anciens ou existants, comme l'Eldorado, un nightclub mythique des travestis, fermé par les nazis en 1933. Dans un quartier aujourd'hui en pleine gentrification, où la pression immobilière est très forte, on découvre aussi les rares hôtels qui acceptent encore des clients à la demi-heure, et on entend des témoignages sur la difficulté à travailler dans la rue quand des familles s'installent dans ce quartier désormais coté. Car au fil de la visite, une dizaine de personnes témoignent de manière anonyme sur leurs conditions de travail, la peur du sida, l'arrivée de jeunes filles venues des pays de l'Est avec la chute du mur de Berlin, ou encore sur les effets du coronavirus, comme l'explique ce travailleur du sexe.
Si je regarde les chiffres des 6 dernières années, je peux dire que depuis 2 ans, le business est à terre, autant pour les transsexuels que pour les femmes. Désormais, ici, on voit davantage de triple idiot, comme on dit, que des clients qui payent. Et même avec ceux qui payent, il faut constamment négocier pour obtenir les prix qu'on veut.
L'application et la visite du quartier de Schöneberg qu'elle propose se veut aussi très militante. Et pour cause, le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe plaide pour une dépénalisation totale du métier. Car si la prostitution est autorisée en Allemagne, elle l'est sous condition, avec l'obligation de s'enregistrer auprès des autorités, de se soumettre à des tests sanitaires stricts et d'utiliser des préservatifs. Ceux qui s'y refusent sont sanctionnés. Une loi qu'Emma Pankhurst critique pour ses effets pervers, notamment en ce qui concerne la lutte contre la transmission du sida.
L'Allemagne est l'un des pays où il est le plus difficile d'imposer aux clients le port du préservatif. Ils assument que ce n'est pas de leur responsabilité de lutter contre la transmission du virus HIV, car nous sommes contrôlés et suivis médicalement de manière obligatoire. Cela donne une fausse impression terrible. Les clients se disent « c'est régulé par l'État, pourquoi devons-nous nous y intéresser ?»
Ce que demande donc cette jeune femme et ses collègues, c'est de pouvoir travailler de manière tout à fait légale, sans encadrement particulier, histoire d'être reconnue comme une profession comme les autres. C'est aussi cela l'un des objectifs de cet audioguide lancé commencé début décembre.
Qui est le cerveau du Qatargate, ce retentissant scandale de corruption qui secoue le Parlement européen depuis le mois de décembre? L'ancien eurodéputé italien, Pier Antonio Panzeri, pourrait bien s'avérer être l'un des personnages clés. Cet ancien syndicaliste, homme de gauche investi dans la lutte pour la défense des droits de l'homme, est accusé d'avoir utilisé ses relations au sein du Parlement pour promouvoir l'image du Qatar et du Maroc. Son portrait, signé Daniel Valo.
Lorsque le scandale a éclaté le 9 décembre dernier, c'est le visage de la vice-présidente grecque du Parlement, Eva Kaili, qui a fait la une des journaux. Mais c'est bien lui, Pier Antonio Panzeri, qui se trouve au cœur de l'affaire. Selon les éléments de l'enquête révélés par la presse belge et italienne, cet ancien député européen, aujourd'hui âgé de 67 ans, aider le Qatar et le Maroc à défendre leurs intérêts au Parlement contre des valises de billets et des cadeaux en nature. Brando Benifei est le chef de la délégation italienne du groupe socialiste et démocrate, le groupe auquel appartenait Panzeri lorsqu'il était élu à Strasbourg.
Quand j'ai appris l'arrestation, j'ai été choqué et surpris et je suis rapidement devenu très en colère parce que je connaissais ces gens. Je connaissais personnellement Panzeri qui avait été mon collègue au Parlement et j'ai appris que ces gens avaient probablement utilisé la lutte pour les droits de l'homme comme un instrument pour promouvoir la corruption.
Au cœur de cette affaire de corruption, il y a une ONG créée par Panzeri lorsqu'il quitte le Parlement en 2019.
L'ONG de Panzeri comptait parmi ses membres d'honneur un prix Nobel de la paix, des anciens commissaires européens, des anciens premiers ministres. Elle était en fait apparemment un outil pour poursuivre des activités criminelles, mais elle avait toutes les apparences d'une véritable ONG. Personnellement, je pensais que c'était une organisation sérieuse. Je n'ai jamais rien fait avec cette ONG, je n'ai jamais participé à leurs conférences, etc. Mais je pensais qu'ils menaient des activités importantes avec des personnes très estimées dans le monde de la défense des droits de l'homme.
Considéré au Parlement de Strasbourg comme un homme de réseau, Panzeri n'a pas laissé un souvenir très vivace auprès de ses anciens collègues. Et pour cause, il ne parle ni français ni anglais et ses interactions se limitaient aux députés capables de s'exprimer en italien. Dans son pays, Panzeri n'était connu que dans un cercle restreint, celui de la gauche milanaise et du monde syndical dont il est issu, Massimiliano Panarari, politologue à l'université Mercatorum de Rome.
Il a eu un rôle important à l'intérieur de la CGIL, le syndicat de gauche de Milan. Et puis il a décidé de commencer une carrière décidément politique à l'intérieur d'un parti. Il s'agissait de PDS, c'est-à-dire le Parti démocrate de gauche. Il s'agit d'une trajectoire caractéristique d'une certaine gauche syndicale à l'intérieur de la tradition du Parti communiste de laquelle il arrive.
Pour la gauche italienne, le Qatargate et l'implication de Panzeri est un coup d'autant plus dur qu'il intervient après la déroute électorale subie à l'automne dernier.
On assiste à un effort de réduction du dommage, on pourrait dire, du point de vue du centre-gauche, bien sûr. C'est-à-dire, on ne parle très peu, et on essaye de l'éloigner le plus possible. Et on parle de quelqu'un qui a des responsabilités personnelles et qui doit être frappé dans la façon la plus dure par le magistrat et par les pouvoirs de la justice.
Pour l'heure, la justice belge poursuit ses auditions. Pier Antonio Panzeri a été maintenu en détention. Quant à sa femme et à sa fille, également impliquées par les enquêteurs, elles pourraient être prochainement extradées de l'Italie vers la Belgique.
Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous sur notre site internet rfi.fr ou en podcast sur votre plateforme d'écoute. Abonnez-vous, à demain.